Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Alors, vous êtes toujours avec nous, avec oui. Adrien, cet après-midi sur RMC, en direct dans le Super Moscato Show. Et la deuxième heure est magique, hein, parce qu'on a quand même un casting de rêve, puisque vous allez entendre Yannick Noah, vous allez entendre Guillaume Cizeron et Laurence Fournier, Baudry, peut-être les plus grands champions actuels des sports d'hiver français.
Du sport français.
Alors après,
Tu peux voir plus large. Hein.
Bon, il y a Wemby, il y a Dupont, il y a Mbappé, il y a quand même du niveau. Hein. Et puis, dans le journal moyen, dans le journal moyen, il y a quand même Vincent à Dubaï.
Vincent à Dubaï, et comme il était un peu perturbé, c'était en pleine guerre. Hein. Enfin, c'était une séquence incroyable quand même. On avait décidé avec Suzanne et Fred d'enregistrer juste sa voix. Ce qui a marmonné, il dit des bêtises dans sa barbe, et puis on l'enregistre un peu en antenne aussi, ce qui ne se fait pas, mais bah on fait des choses qui ne se font pas. Bon. Et puis Pierrot, je sais que tu aimes bien, de nouveaux dérapages de Michel Platini dans l'after. Dérapages verbaux.
Alors que il nous viendrait pas à l'idée de nous moquer d'un sélectionneur ou ancien sélectionneur, puisque Michel, je le rappelle, a été sélectionneur de France.
Ça ne nous viendrait pas à l'idée.
En revanche, si vous êtes fan, vous restez bien avec nous jusqu'à 18h parce qu'il y aura une petite surprise.
Aïe.
Les Bleus ont raté le grand chelem. Vincent Moscato règle le problème.
Le dernier match du tournoi destination, c'est parti.
Le grand chelem est perdu, ça c'est sûr.
Il est passé.
Avec un doublé de Léguil ou de Biel-Biarré.
Encore une masterclass de la part de Biel-Biarré.
Classe internationale, mastercard, tout ce que tu veux.
L'essai anglais.
Du coup, la score, moi, in the first half.
On est déstabilisé par la vitesse.
À quelle vitesse
que nous imposent les Anglais.
À quelle vitesse?
Avantage pour l'équipe de France.
Pénalité de la dernière chance.
Et l'équipe de France qui telle le lapin la tortue.
Le lapin qu'on aussi vite le livre.
Ce ballon qui part.
C'est pas la peine d'arriver en avance, c'est pas la peine d'arriver en retard, il faut arriver à point nommé.
Ça passe pour Thomas Hamon. La France remporte le tournoi.
Le grand chelem est perdu, ça c'est sûr.
Rien ne sert de courir à point.
Rien ne sert de courir, il faut arriver à point.
C'est comme l'histoire de, tu sais, du lapin avec le bordel. Là.
Personne n'y arrive.
Il va te le régler le problème.
C'est fou. Cet enchaînement, il est fou. Faut arriver à point.
RMC, on peut présenter personne pour les grandes équipes.
Il faut réviser Jean de la Fontaine quand même, c'est la base.
Le lapin et le bordel quand même, tu la connais pas.
Le lapin et le bordel.
Il a passé en frontière espagnole, mais il était là, il faisait du stop, il arrive à la Jonquière.
Il y a une version en Belgique aussi.
Oui, il y a une version sur le Nord. Oui, bien sûr.
Donc allez, on y va. Les Bleus avaient pour objectif le grand chelem. Ils terminent avec une victoire dans le tournoi, mais cette défaite en Écosse. Donc pendant tout le début du tournoi, on avait dit que le seul vrai objectif, c'était un grand chelem, que seul le grand chelem aurait de la valeur. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Vincent Moscato règle le problème et vous participez à ce débat au 32-16. Vincent, tu peux démarrer, c'est à toi.
Encore une fois, on a la joie du moment, la joie d'avoir gagné le tournoi, c'est la joie du moment. Le match, il est fantastique, tu gagnes d'un point à la fin, tu as des essais de partout, tu passes une après-midi de rêve dans un rugby de très haut niveau. Et après, t'as quand même la déception du tournoi. Tu t'es fait cogner en Écosse sur une année où tu reçois 3 fois d'affilée. On le sait depuis le début que l'Écosse va être le match le plus dur, à peu près. Tous les mecs les spécialistes avaient dit que ça allait être le match qui cognait le plus, c'était l'Écosse à l'extérieur. Puisqu'on recevait d'Irlande, qui était un peu diminué, avec un ouvreur un peu malade, avec un centre qui était pas là, toute la première ligne qui était à la trapinette. Donc, l'Irlande, même si elle était difficile à prendre, même s'il faut s'en méfier, on sentait qu'à la maison, pam, ça faisait partie des matchs qui étaient faits à la maison. Tu devais les prendre. Avec la génération que tu avais, l'équipe, tu devais les prendre. Après, t'as l'Italie. Dur, très dur, l'Italie. Mais tu le prends aussi. Tu finis, Pays de Galles. Le match le plus facile. Bon, tu le tapes. Après, c'est resté ce premier, le match vérité. Match vérité, c'est en Écosse. C'est là. Moi, je me faisais pas d'illusions, alors que, tu vois, je me trompais pour les Anglais, tu vois, parce qu'à la fin, on a failli se faire taper, tu vois. Mais je me disais, celui-là, c'est le match vérité. C'est celui-là. Celui-là, on va avoir du mal. Si on gagne celui-là, on fait le grand chelem. On le perd. On fait pas le grand chelem. C'est une énorme déception. déception qui est masqué par le fait que tu gagnes le tournoi. C'est rare, c'est le
c'est
deuxième.
C'est juste masqué pour c'est... toi.
Bah, c'est masqué, c'est pas masqué.
Non, mais
c'est
tu peux dire que t'es déçu.
Encore une fois, c'est mon point de vue. Mon point de vue est que dans l'histoire, tu te souviens. Tu te souvenais, toi, qu'il y a 20 ans, on avait fait deux fois le tournoi d'affilée. Personne ne s'en souvient. Tu te souviens des grands chelems? Moi, je me souviens de tous des grands chelems.
Bernard.
Surtout quand j'étais. Ouais,
tu te rappelles, non, c'était Bernard. Hein.
Oui, mais bon, personne ne s'en souvient. Bah, alors, pour eux, pour les joueurs, pour la compétition, c'est important. C'est important, c'est une marque. Et oui, c'est important. Moi, j'étais heureux qu'ils gagnent contre l'Angleterre, qu'ils gagnent le tournoi. J'étais content. Mais je me dis, putain, on a laissé passer un truc.
Tu laisses ta fin, toi.
Ouais, bah, je laisse sur ma faim. Je suis heureux que ça se termine comme ça parce qu'on aurait pu perdre l'Angleterre aussi. On aurait pu passer la trapinette. On fait un énorme match contre l'Angleterre. On peut passer la trapinette parce que les Anglais font un énorme match et qu'ils peuvent le prendre.
Donc, on n'a pas marqué l'histoire, là. Alors qu'un grand chelem, on aurait marqué l'histoire.
Si tu veux, on a marqué l'histoire.
Non,
sur les bouquins, tu marques l'histoire. C'est écrit deux fois d'affilée, tu as gagné. Mais c'est dommage. Cette année, c'est très rare de faire un grand chelem. Peut-être que tu avais la possibilité avec cette génération, avec le truc. Je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim, tu vois. Un grand chelem en 120 ans, 130 ans de rugby,
c'est pas abouti, toi, pour toi.
Ben, c'est pas abouti, non, Pierrot. Quand tu gagnes pas, si tu fais une finale et que tu la perds, tu vois, une finale de Coupe du Monde, tu la perds, c'est pas abouti. Tu vois ce que je veux te dire? Non, c'est pas abouti, Pierrot.
C'est pas comparable.
Non, c'est comparable. Ah, si, tu perds, tu gagnes pas la finale, tu manques un match.
Non, mais tu gagnes pas la finale, tu gagnes pas le tournoi, alors que là, tu gagnes le tournoi.
Oui, tu gagnes le tournoi, si tu veux, t'es finaliste. Voilà, t'es bien, tu gagnes le tournoi. C'est écrit.
Mais dans le rugby, c'est pas pareil.
Mais c'est pas un grand chelem. Ce que je veux te dire, c'est tellement rare, je vous le répéterai jamais assez. On se souvient, moi. Quand j'étais petit, je me souviens pas quand c'est qu'ils ont gagné le tournoi, 77. C'est mes premiers, le truc que je regardais, tu vois. J'étais émerveillé, chaque fois qu'ils jouaient. Grand Chelem avec Gérard Jollet, tout ça, Jean-Pierre Rive, tu vois, c'était mon univers. 80, le Grand Chelem, puis après ça, après
à 87,
avec Sam Revaillé, tu vois, de chez moi.
81, il y a l'élection de François Mitterrand, le Grand Chelem.
On était là au mois d'août, quand ils étaient venus à la fête des vins en 81 à Gaillac. J'étais petit, je faisais signer des autographes aux joueurs de cette équipe de France. Et donc, le Grand Chelem, c'est un Grand Chelem. Il n'y a aucune commune mesure.
C'était pas le salon du livre, plutôt?
Hein?
Non, rien.
Le salon du livre. Ok, Eric. Le tronc, je te jure. Ah, tu sais où il est? Écoute. Le ville de rugby, le plus grand salon du livre, il est à Brive.
Oui, c'est vrai.
Alors, écoute, je crois qu'avec Steve, on avait un peu le même propos, mais ça vient de notre sport, peut-être, que le vainqueur a gagné. Et donc, on n'était pas d'accord. Enfin, j'étais pas d'accord avec Vincent et Denis sur cette histoire de. Il n'y a rien d'autre que le Grand Chelem. Si c'est pas un grand chelem, ce sera pas une grande performance. Voilà. Donc c'était un petit peu ça. Moi j'étais pas d'accord, sauf que à l'arrivée, je me rends compte qu'ils avaient raison parce que on prend 100 points en deux matchs et on se fait éclater en Écosse. Et donc c'est difficile malgré la joie, et du coup c'est vrai que il y avait beaucoup de joie après le match, mais je me demande si cette joie elle n'était pas aussi due au scénario du match incroyable,
c'était aussi du soulagement, hein.
Voilà, et peut-être du soulagement de gagner ce truc là. Donc je comprends ce que disaient Vincent et Denis aujourd'hui parce que les deux derniers matchs ont été pénibles pour nous. On a pris 100 points en deux matchs, on a pris.
Tu crois qu'on mettrait 15 essais, 14 essais.
Je sais pas combien d'essais et tout. Ça fait beaucoup pour un champion d'Europe en réalité, puisque c'est tu es champion d'Europe du coup.
Oui,
tu vois,
sûr.
Voilà. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Après, malgré tout, puisque j'ai vu par exemple que Charles Olivoz, c'est le premier tournoi qu'il gagne parce que les deux autres, il était blessé, si je me souviens. Et la joie.
Le premier titre de sa vie, lui, t'imagines ?
Voilà. Premier titre en carrière. Quand je vois sa joie et ce que ça représente et ce qui s'est passé à la fin du match, je me dis, ben, malgré tout, ma conception et ma philosophie de tournoi ou un championnat d'Europe où tu finis premier, tu es champion d'Europe, ben, finalement, c'est pour ça que hier je te chambrais, ben, ça, parce que tu disais, oui, rien d'autre que le Grand Chelem, mais les mecs, je t'ai dit, ils ont défilé, et la joie était immense.
Le match, voilà, était dur, ils ont fait passer la trappe contre toi.
Donc, si tu veux, ça m'a réconcilié un peu, parce qu'en effet, je me rends compte qu'en finissant premier du tournoi sans faire le Grand Chelem, eh ben, la joie est immense. Pour certains, c'est un titre important, voilà. Et c'est bien comme ça.
Pour tout le monde, c'est un titre important.
Voilà. Non, mais pour tout le monde. Et voilà. Et nous, on connaît certain âge. Voilà, tu vois, le titre de le Grand Chelem de Fabien en 2000, c'est en 2022.
Oui.
Grand Chelem de Fabien, c'est pas pareil, c'est pas la même victoire quand même, les gars.
Non.
C'est tu gagnes Wimbledon, et tu gagnes le tournoi de la Soussouze, quoi. Tu vois, c'est pas pareil. Ouais, non. Oui, peut-être. Peut-être qu'un tournoi du Grand Chelem un peu moins valorisé que Wimbledon ou que le Roland Garros, ça peut, quoi que non, ils sont tous quand même très ils sont pas valorisés, ouais. Donc c'est un mauvais exemple, mais un As Pro 1000. Voilà.
C'est le côté rarissime en fait. Le tournoi a été inventé en 1882.
Oui.
Depuis ce temps-là, les Bleus n'ont réalisé que 10 grands chelems.
Oui.
Donc c'est dire la difficulté.
En 1882.
Oui, c'est dur de faire un grand chelem. C'est très dur.
Et je trouve alors le problème, c'est que vous parlez d'un championnat d'Europe, c'est un championnat d'Europe qui a lieu chaque année en fait, le tournoi des nations.
Oui,
c'est un euro qui a lieu chaque année, et t'as beaucoup de possibilités de prendre des titres. Et je trouve qu'on minimise ce trophée-là, qui est malgré tout, t'as gagné le tournoi des nations. Mais ce qui nous fait kiffer à nous, c'est qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ce qui nous fait kiffer à nous, c'est le titre suprême qui est le Grand Chelem. Mais aujourd'hui, on se contente même pas pour nous autres.
Ouais.
On se contente même pas d'une victoire sur le tournoi. Alors, est-ce que ce Grand Chelem...
Non, mais si on s'en contente, c'est pas ce que je veux dire non plus.
Non, mais parce que... En fait, si en Écosse, tu gagnes 50 à 40, c'est le score inversé, et tu gagnes quand même contre les Anglais 48 à 46.
Tu gagnes, je m'en fous, moi, tu gagnes 38 à 1.
Oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas eu exactement les mêmes doutes sur les carences de cette équipe défensive?
Non, mais c'est pas pareil, les doutes, d'abord...
On aurait quand même parlé de tous les essais qu'on a pris sur les matchs.
On aurait laissé le doute aux techniciens, ceux qui s'occupe de cette équipe, mais nous on aurait pris que le bon. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. On aurait pris que le bon, et on ne se serait pas, tu vois, bien introduit dans ces histoires qu'on n'est pas bon en France ou si ou là. On aurait été heureux du Grand Chelem. Là, on est heureux du Grand Chelem, et en plus, tu prends 7 essais là, le dernier. C'est combien qui marque les Anglais? 7.
7 et nous 6.
7 et 6. 13 essais dans l'après-midi.
Est-ce que le Grand Chelem, et ça n'a jamais été le cas, est-ce que elle nous aurait garanti la victoire en Coupe du Monde dans un an et demi? Même pas en fait.
Mon poulet, mais quand tu gagnes une compétition, tu la gagnes, et après tu dis, ça te garantit pas d'être champion d'Europe au football, ça te garantit pas d'être 2 ans après d'être champion du monde au rugby quand tu es champion d'Europe. Oui. Tu vois, il n'y a rien qui te garantit que la compétition après tu la gagnes.
Ce que je veux dire, c'est que si on avait fait le Grand Chelem, je pense que ça aurait pas masqué nos carences, parce que les carences elles sont là en fait. Grand Chelem ou pas Grand Chelem, on a des carences et le problème, c'est qu'on est à un an et demi de la Coupe du Monde.
Oui, mais c'est pas trop tard. Voilà.
C'est pas trop tard, mais le problème, c'est que c'est l'avant-dernier tournoi, et on fera sûrement les débats l'année prochaine sur que vaut le tournoi à 3 mois de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est un tournoi qui a son importance? Est-ce que c'est un tournoi où les mecs vont pas le baisser? Donc pour moi, ce tournoi-là était très important. Et le problème, c'est que t'es à un an et demi de la Coupe du Monde, et que finalement, je vais pas dire que il y a beaucoup de choses à régler, mais il y en a pas mal. C'est-à-dire que t'es toujours à la recherche de ton pilier droit titulaire, que t'es centraux, et ben finalement, t'as pianoté tout le tournoi et t'as pas deux centraux indéboulonnables, que on a souvent parlé de Dupont dépendance. Là, Antoine, il a peut-être été en deçà de ce qu'il avait pu être.
Il a peut-être pas retrouvé son niveau,
il termine bien le match, hein.
Oui, sauf qu'on nous dit il y a pas de Dupont dépendance.
Si.
Antoine, il a joué les 5 matchs du tournoi, son remplaçant, il a joué 30 minutes sur les 5 matchs du tournoi. C'est pas une Dupont dépendance, ça?
Oui, mais
pour moi, c'est une Dupont dépendance.
Mais les Anglais étaient dépendants de Wilkinson. Toutes les équipes au monde sont dépendantes de Zidane, dépendantes de Mbappé, dépendantes de n'importe qui. Quand tu joues avec un basketteur, alors là, les mecs, c'est pas de la dépendance. C'est-à-dire, quand il n'est pas là, tu passes de la première division à la deuxième division.
Toujours qu'en basket, on n'est que 5.
Oui, c'est vrai. Oui, mais les dépendances, elles sont de partout, au football, au basket, partout.
Il ne faut plus prendre d'exemple le tournoi. Qu'est-ce que ça va faire pour la Coupe du Monde derrière? Une équipe qui gagne le tournoi et qui gagne la Coupe du Monde en suivant, ça arrivait une fois dans la vie. Hein.
C'est qui?
C'est l'Angleterre en 2003.
Ça,
c'est pas un révélateur, c'est-à-dire qu'il y a une seule équipe européenne qui a gagné la Coupe du Monde.
Et une équipe qui gagne le tournoi de l'hémisphère sud et qui est championne du monde,
ça arrive 9 fois sur 10.
Parce qu'ils ont gagné 9 fois sur 10. Ils ont gagné 9 fois sur 10 les compétitions mondiales.
Donc ça, c'est pas un révélateur pour nous.
Cette histoire de Grand Chelem, c'est aussi parce qu'on s'est vu trop beau. C'est-à-dire qu'on s'imaginait capable de rouler sur tout le monde. Mais souviens-toi quand même qu'on a passé 12 ans sans gagner. gagné le tournoi entre 2010 et 2022. Mais oui, mais la valeur d'une victoire dans le tournoi, elle est importante.
Quand t'es spectateur comme
donc
nous,
aujourd'hui, y a pas de mal à on fait partie bon, des même. Meilleures équipes oui, européennes, et ben c'est déjà très bien. Parce qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Oui, mais voilà, mais moi, il n'y a pas de, y a pas de mal à se voir trop beau, de vouloir gagner ce tournoi destination, tu vois, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et donc, quand t'es supporter et que t'as l'équipe que t'as avec des meilleurs, des mecs, les meilleurs du monde à leur poste, tu veux un grand chelem, Quand t'as Ramos, quand même, les gars, t'as Jalibert, Ramos, Dupont, quand même, les gars, tu peux gagner un grand chelem.
Tu joueurs aussi, tu vois.
Et oui, mais je n'ai pas le contraire, mais tu peux espérer, c'est pas être, se voir trop beau.
C'est trop beau, clairement. On ne pouvait pas faire le grand chelem.
Mais quand tu dis on s'est vu trop beau, c'est nous journalistes, c'est joueurs, c'est parce que les joueurs, on parlait de grand chelem aussi. Eric, tu disais champion d'Europe, mais il n'y a que trois équipes à battre, ça que tu disais.
On peut espérer cette équipe-là.
Non, moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit champion d'Europe, c'est champion d'Europe.
Non, mais parce qu'au contraire, aujourd'hui, tu n'as plus que trois équipes à battre. Là, tu l'as bien vu sur ce tournoi, tout le monde pouvait battre tout le monde. Donc il a quand même cette valeur-là aussi, ce tournoi.
Ah, mais il a une énorme valeur.
C'est-à-dire que là où tu avais que de l'incertitude dans tous les matchs, et ben nous, on est sortis avec quatre victoires, une défaite.
Il n'y a plus de paillasson. Il y avait un paillasson dans le tournoi de destination.
C'était l'Italie, ouais.
Il n'y a plus de paillasson aujourd'hui.
Bah, au début, c'était un peu le Gallois, mais ils se sont repris à la sortie.
Simplement, il faut dégonfler un peu notre boulard parce qu'on s'est vu très très beau.
Mais arrête,
chaque
fois,
c'est la vérité. Il faut apprécier ce tournoi, sa juste valeur. On a gagné, on est les plus forts d'Europe. Point barre, on n'est pas les meilleurs du monde.
Sur les 5 derniers tournois, si on avait invité l'Afrique du Sud, ils en gagnent combien?
5.
C'est ça qui est décourageant.
Mais t'en es pas sûr.
Gagner, pas le grand chelem, gagner le tournoi.
Mais t'en es pas sûr du tout.
4.
Mais non, vous n'en êtes pas sûr. Mais t'en es pas sûr. Pas la moitié.
C'est ça qui est décourageant.
Mais dis-moi, ils ont perdu contre l'Irlande, gagné la France d'un point et l'Angleterre d'un point.
Si vous voulez me dire qu'on n'est pas les meilleurs du monde, on n'est pas les meilleurs du monde. Moi, je crois. Je crois qu'on sera les meilleurs du monde bientôt, en 2027. Je pense qu'on y sera. Donc voilà, je vous dis qu'on sera champion du monde. Vous ne me croyez pas. C'est votre avis. Moi, je vous dis que cette année, on devait prendre le grand chelem. On l'a pas pris. C'était une contre-performance. Pour moi, on devait le prendre. Alors, la performance, il y a une sous-performance qui rend heureux, c'est de gagner le tournoi. Bon, ben, ça vous rend heureux. Moi, ça me rend heureux. Je suis content. Mais quelque part, j'ai quand même une déception. C'est de pas faire le grand chelem. Et dans 2 ans, je pense qu'avec cette équipe, on va régler les problèmes défensifs. Parce que ça, c'est des problèmes qui se règlent vite. Quand les joueurs vont être habitués ensemble, les centres, tout ça.
Ça a beaucoup changé.
Ça va se régler très rapidement et que tu vas être champion du monde, j'en suis persuadé.
On oublie que c'est dur de gagner le tournoi destination.
C'est très important ce que tu dis. C'est très dur de gagner le tournoi et donc gagner un grand chelem, ça reste exceptionnel.
Comme si les autres c'était des pompes.
Les Français n'en ont fait que 10. Hein. Le tournoi a plus de 100 ans, il n'y a que 10 grands chelems. C'est rien.
Allez, dans un instant, nos invités exceptionnels, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, puis Yannick Noah. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Il est 16h30 sur RMC et dans une demi-heure, nous allons reparler de la saison de l'OM. Alors, saison complètement surréaliste.
C'est fou.
Évidemment, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des très hauts et des très bas. Et il y a eu des très 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 bas. Une fois que l'équipe a été éliminée de la Ligue des Champions, c'est parti complètement en vrille. Donc, Roberto De Zerbi est parti. Et là, on s'est demandé, et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est le débat.
C'est un débat 17h. Du 12 février. Le temps passe vite. Hein.
Fou.
Cette saison à l'OM.
Elle est allée vite, la saison. Il y a eu 2 saisons, en vrai, à l'OM. Ça, c'est à 17h. Est-ce que ce sera l'occasion de réécouter un peu de Didier Deschamps en difficulté?
Ça, c'est toi qui assume l'anti-responsabilité de ce qui va se passer.
Et ce sera, d'ailleurs, juste après le journal moyen. Oui. Mais tout de suite, nos invités, on en profite. Ils sont champions olympiques de danse sur glace. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry.
RMC.
Le Super Moscato Show Milan Cortina 2026.
C'est vraiment presque la pièce maîtresse pour ce programme libre pour les Français, d'une beauté, d'une élégance. Nouveau porté, ils avaient chuté hier à l'entraînement là-dessus. Cette fois-ci, c'est bon, ça passe évidemment. Ça passe pour Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. On arrive désormais au dernier élément de danse très sensuel pour essayer d'émouvoir les juges. Ils sont désormais genoux à terre sur cette patinoire du Milano Forum de Milan pour aller chercher un or olympique. Oui, oui, ils sont champions olympiques. Ils sont champions olympiques. C'est un double story pour Guillaume Cizeron. Jamais dans l'histoire de la danse sur glace, un patineur n'a été double champion olympique avec deux partenaires différents.
Guillaume Cibron, Laurence Fournier, Baudry, champion olympique de danse sur glace. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Survêt de l'équipe de France et médaille d'or autour du cou. C'est la tournée médiatique. C'est des bons moments ça, Guillaume et Laurence, non?
C'est les meilleurs moments en fait, c'est parce qu'on est plus stressé.
On nage un peu sur notre nuage.
Vous êtes la pression est retombée complètement là, vous vous sentez comment Laurence?
On se sent très détendu, on est heureux, on est très heureux, puis on essaie un peu de réaliser ce qu'on a accompli dans la dernière année.
On n'a pas conscience de la pression qui accompagne ce sport. Hein.
Vous devez vous bouffer le foie tout le temps, quoi. Ça c'est une pression incroyable, quoi. Parce que là, on s'aperçoit, même nous, les détails, il faut que ce soit très très précis, très sensuel. Faut que ça glisse.
La synchronisation.
C'est d'un haut niveau sportif incroyable. C'est vraiment très complet. Entre la force, la glisse et l'élégance, c'est. Moi, j'ai joué au rugby. Il y a plus de force, moins d'élégance.
Certains c'est vrai. Très élégant.
Oui, bien sûr. Mais c'est très très surprenant et très captivant.
Enfin, tu aurais pas été élégant.
Bah oui, c'est sûr qu'on est. Je veux dire, c'est un sport. On est toujours sur la ligne fine, quoi. Rien, tout peut arriver à n'importe quel moment.
Alors pourquoi c'est si difficile de réaliser une telle performance en seulement un an? Alors on sait que d'autres couples, ça fait 15-16 ans pour les Italiens qui travaillent ensemble. On comprend. Mais pourquoi c'est si difficile en un an, Laurence?
Il faut développer beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexes et il faut être à 100% sur la même longueur d'onde lorsqu'on patine ensemble pour être capable de performer. C'est un peu un exploit.
Alors, ouais. Si on revient à la compétition, ça se joue à 1,5 sur un total de 225. Ça représente quoi exactement? Parce que ça a l'air infime, la différence entre vous et les Américains. Pourtant, il semble que vous étiez à peu près sûr de votre coup, que vous vous sentiez plus fort.
Dans notre sport, infime, c'est 0,01 point.
Donc ça, c'est 1,5, c'est pas infime.
C'est pas infime, je dirais.
C'est une marge normale.
C'est une bonne marge. Je pense qu'on avait.
Ah oui, c'est une bonne marge.
C'est correct, quoi. C'est assez pour gagner, en tout cas. Ouais. Mais je pense qu'on avait comme objectif de gagner à 5-7 points de différence.
Ok, quand même.
Et, ouais. Oui, on a fait quelques erreurs qui nous ont quand même coûté, je dirais, 3 ou 4 points.
Mm-hmm. Est-ce que toi, tu peux nous parler justement de cette erreur? Parce que pour des non-connaisseurs, c'est impossible d'avoir déséquilibre à la sortie d'un twizzle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Comment tu t'es remis dedans? Et pourquoi ça n'a pas été plus préjudiciable que ça, Guillaume?
Moi, j'aimerais bien dire qu'il n'y a pas vraiment fait d'erreur. Il a décidé d'être créatif sur le moment.
Ah ouais? Tu te l'aperçois au moment où tu fais une erreur? Tu le sens?
Ah bah bien sûr.
Ah ouais. Ah ouais,
oui. Mais ce qui est dur, c'est que tu peux pas le montrer sur le visage.
Tu balises. Limitré, mais je pense qu'on a tellement l'habitude d'essayer de masquer nos erreurs.
Ah oui.
Que
pas d'émotion.
Ça m'a pas vraiment coupé dans mon flow, je dirais. Puis, en fait, ça arrivait vraiment à la fin d'une rotation, donc j'ai quand même complété les 4 autres rotations qu'il y avait à effectuer. Donc le niveau, il était là, et bon, on a été quand même pénalisé au niveau de l'exécution de l'élément, mais l'élément était exécuté.
Est-ce que le plus dur, c'est pas de rester dans son programme?
Le plus dur, effectivement, comme ça, c'est d'être là, et là tu te dis zut, pour pas dire autre chose. Est-ce que je viens de nous coûter la médaille? Et ça, tu te le dis automatiquement. Et là, c'est un peu la bataille mentale de continuer de dire non. Là, tu continues à enchaîner les éléments, à faire des points, on fait des points. Je me remets dedans. Puis, en fait, c'est de rester présent et de pas rester dans ce qui vient de se passer.
Ouais, d'aller devant.
Ouais, d'aller à l'avant et justement de couper un petit peu ce fil de pensée négative qui arrive très directement. Puis ça, ça demande un entraînement mental. Bah, c'est là que les 20 années d'expérience rentrent en jeu.
Ça fait quelques temps que tu patines un peu.
Tu Eric Dimeco.
Ce qui rehausse votre performance, c'est le fait que vous soyez ensemble depuis un an. Nous, on ne se rend pas compte, mais est-ce que c'est déjà arrivé, des couples récents sur glace, entre guillemets, qui soient aussi performants que vous, ou est-ce que c'est vraiment
une première
anachronique, voire même impossible normalement, tellement il faut s'entraîner.
Je dirais que c'est jamais vraiment arrivé avant.
Je crois que c'est vraiment un exemple.
Voilà, il y a pas d'autre, il y a pas d'autre exemple. Voilà, c'est ça. Il me semblait.
Quand on réfléchit, je crois qu'on est dedans, on n'y pense pas trop, on pense que c'est assez naturel, mais en y réfléchissant, je crois pas que
c'était un pari fou quand même.
C'était vraiment un pari fou. On s'est lancé à fond.
Et au début, il y avait quand même un petit peu. Moi, ça faisait 3 ans que j'avais fait aucune compétition, que je m'étais pas entraîné, donc il y avait quand même cette question-là de. Je me disais, mais est-ce que je suis encore capable?
Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vous vous projetez sur 2030?
On n'en est pas là.
Oh, on est encore en train de
d'absorber
et de savourer ce qui vient de se passer cette semaine. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de potentiel qu'on n'a pas exploré encore.
Peut-être que Guillaume a envie d'être champion olympique avec une troisième.
peut-être.
Ça serait pas cool pour Laurent. Laurent Fournier-Baudry, champion olympique de danse sur glace.
Bravo.
Merci beaucoup.
Merci.
Et encore
merci
bravo.
Merci.
Profitez bien.
Ils sont très sympas en plus. C'est vrai que.
Ils sont super sympas.
C'est des méga stars. On se rend pas compte. Hein.
Partie de ces gens qu'on a reçus donc, dans les couloirs, en coulisses, etc. Où tout le monde voulait faire une photo. Tous les gens qui travaillent à RMC, à BFM TV, les regarder, s'arrêter et les interpeller pour avoir un petit autographe.
Ce dont on n'a pas forcément conscience, c'est que tous les Français les ont vus.
Tous
même
les Français
ceux qui
les
n'aiment pas
vu.
Le sport.
Tous les Français les ont vus.
Tout le monde regarde le patinage
en prime, les JO, 7 millions de personnes.
Même bravo. Suzanne Folly, par exemple, elle a regardé la compétition olympique de patinage artistique.
Ouais, même Fred Pouillet. Fred Pouillet l'a regardé.
Non, alors là, c'est impossible.
On passe de deux stars à une énorme star. Tous les Français le connaissent.
Une légende du sport français. Alors, une légende du tennis, Yannick Noah, puisque c'est tellement une légende de tennis. Il a été capitaine de la Lever Cup.
Ouais.
RMC. Le cri du cœur du Super Moscato Show.
Yes. Nous accueillons le capitaine de l'équipe Europe de Lever Cup en tennis, Yannick Noah.
Oula.
Oh.
Ah, là, mes respects. Mes respects, mon colonel.
T'as la chance, quoi. Vous avez de la chance.
Hein. Oh non, mais de te connaître.
Mais tu réalises, est-ce que tu réalises la chance que vous avez?
Je ferme les yeux, là, je me rends compte que je suis avec toi.
C'est le capitaine de l'équipe américaine? C'est-à-dire l'alter ego de Yannick?
McEnroe?
Agassi.
Au niveau des cheveux, c'est qui Yannick déjà?
Il est coiffé comme toi, Agassi.
Il a une casquette en peau de genou, comme moi.
La Lever Cup.
Comment on avait les cheveux longs?
Comment il va?
C'est du 19 au 21 septembre à San Francisco.
Il va bien, mais je suis content de passer parce que dis donc, j'ai une pression. Tu connais Charvet, Denis?
Oui.
Oh, bah, oui il me met une pression. Ah, ouais. Oh la vache.
Ah, c'est une bouteille de la vache.
Je te mets une pression, mais on t'annonce à 15h, on t'annonce 16h, 17h. T'es pas là.
J'ai une vie. T'es marrant.
Tu le prends au plus mauvais moment. Là, il a la pression parce qu'il reçoit pas la pique à la maison. Donc il est plein gaz. Je te le dis. Il a la sève au plafond.
Yannick, on va parler d'Alcaraz puisque t'as la chance de coacher Alcaraz sur cette Lever Cup. Sinner est pas venu lui. Hein. Il sera pas là en tout cas.
Non, Sinner vient pas, mais enfin bon, c'est une équipe d'Europe. Il y a Rune, il y a Rublev, il y a Zverev, Alcaraz. Bon, ça joue pas mal, ça joue bien. C'est une belle équipe.
Tu vas te régaler.
Je suis honoré, je vais me régaler de suivre ces gars-là, passer des moments avec ces gars-là. C'est des joueurs que je vois. Bon, j'ai vu la dernière fois que j'ai vu Alcaraz. Bon, bien sûr, j'ai vu à la télé la finale où il a été vraiment supérieur, mais la finale de Roland, c'est quand même été une finale d'anthologie. J'étais au stade. C'est vrai que me retrouver sur la chaise et puis me retrouver un peu avec ces gars-là, c'est un bonheur. Je suis très excité.
Dis-moi, la finale de Roland Garros, est-ce que on peut dire que c'est la plus belle finale de l'histoire de tous les grands chelems?
Écoute, je sais pas, je les ai pas toutes vues, tu sais, le tennis évolue, mais c'est vrai que celle-là, si tu veux, déjà, techniquement, pour la petite histoire, j'étais assis au deuxième rang, et j'arrive au stade, je m'installe, et derrière moi, il y avait Muster, qui a gagné 2 Roland, tu sais, j'avais pas vu depuis 20 ans. Bon, on se salue et tout, le match commence, le premier point du match, je savais pas si c'était de la PlayStation, je sais pas, les mecs, ça joue à 10 000. Le premier point. Et là, l'arbitre fait 15-0, je me retourne, et il m'a mis sur la main sur l'épaule, il a fait une tête, il a fait putain.
Un point,
c'est-à-dire qu'un point, et bon, il y a eu déjà techniquement c'est monstrueux, physiquement c'est extraordinaire, ça frappe dans tous les sens, et en plus de ça, il y avait ce côté dramatique, balle de match, etc. Et en plus, j'ai trouvé que Sinner dans la défaite a été tellement classe, c'était tellement beau. Non, c'était une très très belle finale à tous les niveaux. Il y avait tout.
Qu'est-ce qui t'impressionne de plus là, techniquement, physiquement? Qu'est-ce que là où tu te dis, comme tu dis là, oh putain, qu'est-ce qui t'impressionne de plus?
Ben, ce sont les frappes, tu sais, il y a un son dans la frappe. Quand la frappe, elle est propre, tu vois, elle est légèrement recouverte, liftée, mais il frappe quasiment tous les coups à 90, 100% de leur force. Et tu vois, tu regardes où va la balle. Elle va dans un coin. Normalement, moi, avec mon regard, allez, même un tennis d'il y a 15, 20 ans, ce point, s'il est pas gagnant, c'est la balle de l'autre côté, elle est gagnante. Mmh. Mais ils sont capables de jouer à 10 000 dans le coin à gauche, la diagonale de l'autre côté, revenir de l'autre côté. Ils te font comme ça 10 échanges, c'est extraordinaire. Mais ce qui m'a halluciné, c'est le son de la balle. Ouais, c'est-à-dire que c'est la frappe, elle est propre.
Moi, avec mes filles, quand je leur fous des baffes, je le sens.
Arrête, arrête. Oh,
c'est la c'est le c'est son, fini, tu sens quand tu as réussi.
Yannick, c'est pas, sans comparaison, Alcaraz contre Nadal aujourd'hui.
Nadal à son prime?
À son prime, bien sûr. Ça donnerait quoi?
Mais c'est marrant comment on aime toujours faire des comparaisons.
Oui, mais
comme ça.
Ce
que je retiens, c'est qu'il y a, allez, un an, hein, même pas, un an et demi, deux ans, on se disait, mais après eux, ça va être 10 ans, il va y rien avoir. Trois jours après, tu as Sinner et Alcaraz qui arrivent et qui jouent un niveau. Moi, je suis halluciné par le niveau. C'est au moins égal, si ce n'est supérieur, et les gars ont 22 ans, quoi. Et quand on sait que Nadal a atteint son meilleur niveau à 28, 29 ans, eh ben, on se dit que ces gars ont encore une marge de progression incroyable. Ce qui est hallucinant, c'est que Sinner, il termine, il a gagné quand même cette année, il a gagné deux grands chelems, hein. Il fait deux grands chelems, il gagne, et deux finales. À la fin de sa finale à l'US Open, il dit, il va falloir que je travaille parce qu'il faut que j'améliore mon jeu, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardais Nadal au début, quand il gagne son premier Roland, je te parle pas du dernier, mais quand tu vois le Nadal, comment il jouait lorsqu'il gagne son premier Roland, et comment il joue quand il gagne son dixième, c'est un autre joueur. Il est beaucoup plus complet, il va vers l'avant, il a de la main à la volée, enfin bref, il a amélioré son service, il a changé techniquement son service, enfin il y a plein de choses comme ça qu'on voit. Et quand tu vois ces gars qui jouent à ce niveau-là et que tu te dis qu'ils ont tous les deux 22 ans, ça promet, et ce qui est assez... Enfin, pour l'instant, je ne vois pas trop qui pourra les gêner, là, pour l'instant.
Éric ?
Non, mais moi, je veux revenir à la question de Denis, parce que chaque fois qu'on voit une nouvelle génération
Éric,
qui arrive...
comment tu vas, Éric ?
Comment il va, mon petit Yannick ? Il est là. Je vais t'écouter religieusement. Juste réagir à ce qu'a dit Denis, puisque on fait toujours des comparaisons entre générations dans tous les sports. Donc, on a fait des comparaisons Pelé, Platini, Zidane, Machin, Mbappé, tout et tout. Sauf que moi, je pars du principe que les très bons et les meilleurs de la génération d'il y a 20 ans, ils joueraient aujourd'hui, seraient toujours les meilleurs, parce qu'ils auraient le même matériel, ils auraient la même méthode d'entraînement, ils frapperaient à plat comme les mecs frappent aujourd'hui, comme Yannick disait, il faut de toi ça à 90% chaque frappe de balle, et voilà, donc il faut pas croire que les mecs d'aujourd'hui sont des génies par rapport à Nadal et à Federer quand même, Denis, j'espère pas quand même.
Non mais je pose la question à Yannick.
Non mais déjà si tu es un génie de ta génération, ça suffit. Alors c'est vrai
pas mal,
que
bon,
ben, on aime bien débattre, tu vois, mais c'est vrai que quand je vois des images de mes matchs à l'époque, tu vois, même ma finale à Roland ou d'autres matchs, tu vois, ça, c'est un autre niveau.
Comme
mais oui,
sports,
on jouait avec des raquettes en bois, que c'était, tu vois, tu, quand tu voulais servir à
195,
tu
débutais
l'épaule. Maintenant,
c'est des broyaux de chat.
Les filles, elles font 195 en seconde balle, tu vois.
Oui, mais justement, c'est un geste.
C'est difficile.
Justement, le service, c'est un geste.
Non, mais après, mentalement, on était costaud. Mentalement, on était costaud. Physiquement, bon, on avait bien sûr même la préparation était différente. Mais je me dis que moi le petit point de repère que j'avais, c'était quand j'entraînais. Tu vois, quand j'ai arrêté de jouer, je continuais à m'entretenir physiquement, mais quand on allait au footing, j'étais devant. Hein. J'étais devant, 7-8 ans après, j'étais devant. Oh, donc après, bon, bah, c'est vrai que ça continue. Maintenant, tu mets les images de moi quand je jouais Alcaraz aujourd'hui. Je sais pas, mais c'est pas que je fais pas un jeu.
Mais comme tous les sports,
c'est le nombre
normal,
de points que je gagne qu'on va compter.
Oui, mais tu sers à 200, Yannick. Tu sers à plus de 200.
Oui, mais tu
sers
à 200.
Moi, je roule un scooter des fois pas loin de 200.
Je sers à 200, mais à 200, maintenant, c'est rien pour eux. Tu as vu quand ils mettent des services à 210, les mecs, ils retournent ça avec les raquettes, c'est comme si c'était rien du tout. Moi, je montais au filet sur une seconde balle. Maintenant, les mecs, je sers une seconde balle, je monte au filet. Le mec, il va boire un thé, il va boire un coup avec, avec Vincent. Il a le temps de boire un bon coup. Il revient, il me passe en rigolant. Donc, non, mais c'est, voilà, le jeu a évolué. Mais bon, voilà, ce sont des jeux, des gens. Ce qui est bien, c'est que c'est des gars qui font, ils vont faire rêver toutes ces générations.
Yannick,
c'est magnifique,
C'est toujours difficile de faire des projections, mais est-ce que tu en vois un des deux? Alors, parlons d'Alcaraz, là, qui est le plus en forme, on va dire, en ce moment. Atteindre les 20 grands chelems. Est-ce que tu le sens?
Oui. Oui.
Les deux?
Oui, oui, c'est très possible. S'ils se blessent pas, les deux, oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que, ben, parce que moi, je pense qu'ils sont deux. Déjà, à l'époque, il y en avait trois. Il y a eu un peu Murray.
Oui, bon,
ça n'empêche pas qu'il y a peut-être, quelqu'un qui va arriver, mais je ne vois pas, moi, aujourd'hui, dans les l'année prochaine ou les deux prochaines années, donc ça fait déjà 8 grands chelems, je vois pas qui pourrait gagner un des 8 prochains. Après, il faut pas se blesser, etc. Mais c'est des gars qui sont, je les trouve frais, je trouve que l'encadrement, il est vraiment top niveau. Tu vois, la structure, elle est super bien huilée, c'est des gars qui sont bien. Tu vois, Alcaraz, il est bien dans sa tête, le môme, tu le vois, il est heureux, quoi. Tu vois, le petit Sinel à 22 ans, t'as l'impression qu'il a la maturité d'un gars de 35 ans. C'est extraordinaire à voir tout ça. On voit pas ça dans le jeu, mais c'est des gars qui, pour moi, ils peuvent arriver au 20.
Comment tu nous décris Alcaraz et Sinner? On a l'impression qu'on va encore attendre 10 ou 15 ans avant d'avoir un Français qui gagne un grand chelem. Est-ce qu'il y en a un qui a une chance dans les 10 prochaines années?
Ben là, on vient de parler d'Alcaraz et Sinner, mais imagine par exemple un Zverev. Zverev, il est un peu plus âgé. Il s'est dit, Djoko, c'est bientôt fini. Nadal, c'est fini. Federer, c'est fini. C'est moi le prochain. il se met en place.
Il n'a pas gagné.
Il a deux mecs qui lui passent devant. Qui lui mettent un vent et lui du coup
aucun respect des anciens.
Zverev, je peux te dire un truc, c'est que Zverev ça joue, je trouve moyen avec les portes fermées et les autres derrière. Pour un joueur français, nos meilleurs c'est Arthur Fils et Hugo Humbert. C'est dur, hein, les plaçons sont durs.
Tu risques de pas être emmerdé, tu resteras toujours le dernier, quoi.
Yannick,
on va se ressucer ton grand chelem 82 pendant encore 30 ans.
83.
Yannick, comment devient capitaine de Lever Cup?
Parce que nous, c'est écrit quand on est une légende.
Non, mais il y a quelqu'un
c'est une idée de Roger, hein.
C'est Roger,
c'est ça. Je souviens des images. C'est la dernière qui fait, c'est Federer qui fait sa dernière à la Lever Cup. Et c'est lui qui a eu cette idée de faire une genre de Ryder Cup qu'il y a en golf, en tennis, qui n'existe pas. Comme vous savez tous, la Coupe Davis, c'est un peu en s'essouffle. Et il s'est dit que peut-être ça pouvait être quelque chose qui peut être intéressant sur le plan du spectacle. Et je pense que c'est une très belle idée. Il a pris, les 6 premiers années, il a pris McEnroe comme capitaine, Coupe Amérique, reste du monde fabuleux. Bjorn Borg, mon idole, Europe. Et puis pour changer, un jour j'étais à la maison au Cameroun. Ça faisait 5 minutes qu'il y avait du réseau. Le téléphone sonne et c'est Roger. Il me dit, tu veux pas être capitaine? J'ai dit, non mais tu blagues là, sans déconner, tu blagues. Je suis en paréo, j'ai pas la télé. Il fait non, mais
au Cameroun, c'est une pirogue.
Serait bien et tout. Je dis non, mais avec plaisir, tu rigoles, tu vois. Et puis une fois que j'ai raccroché, je dis, oh putain, coacher ces gars-là, c'est pas rien, quoi, tu vois. Je suis quand même assez impressionné, tu vois. J'arrive pas en disant, putain, moi, c'est moi Yannick, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, j'arrive là plein d'humilité et que, j'ai un petit flux quand même.
Yannick, merci beaucoup.
On t'embrasse, mon poulet.
À bientôt.
Merci Yann.
Salut les gars.
Merci beaucoup.
Allez,
la prochaine fois, c'est en studio 3h. Hein.
Ouais, 3h. Un jour, viens me faire 3h avec nous. 3h.
Mais il n'a pas l'endurance. Mais s'il faut un mental de fou, là.
Il faut bosser pour faire 3h.
Il faut bosser, là. Et puis, il faut un niveau d'études. Il y a un niveau d'études demandé aussi pour faire 3h quand même.
Je vais arriver, je vais vous défoncer.
Yannick, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Yannick.
Allez, je vous aime, les gars. Salut, les gars.
Salut. Carlos Alcaraz, il respecte Yannick Noah. Hein.
Ouais, depuis, il s'est blessé. Il a rencontré Yannick, il s'est pété le poignet.
Allez, on revient tout de suite.
Journal moyen,
deuxième édition.
Avec des petites saucisses de Michel Platini, on adore ça. Et puis on va se moquer de Vincent parce que on sait faire comme ça.
C'est ce qu'on fait tous les jours.
On est payé pour ça.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Vous êtes sur RMC, il est 16h45, journal moyen, deuxième édition.
La deuxième édition aujourd'hui sur RMC, Michel Platini, le grand Michel.
Bah oui.
Quelques dérapages quand même pour le journal moyen hier dans l'after. Magnifique Focus Voice qui va venir sur l'un d'entre vous. On a enregistré juste la voix d'un membre du Moscato Show pendant une émission. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, c'est le 2565e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
Hier, 18h sur RMC, j'écoute Roten sans flamme. C'est devenu une de ses spécialités de Jérôme Roten. Il aime nous inventer des mots nouveaux. Encore une fois, soyez bien attentifs. Hier, il est 18h11, on parle de PSG Chelsea. Les Parisiens vont-ils pouvoir retrouver un bon niveau sur la durée? Mots nouveaux.
Moi, je pense qu'ils seront pas à ce niveau-là mercredi soir. Peut-être que je me trompe et que je les vois trop beaux, mais je pense qu'ils vont peut-être appuyer enfin sur le bouton. Est-ce que ça durera 1h30? Je suis sceptique quand même, mais ça peut durer 8 minutes.
Alors, au début, je me suis dit, j'ai mal entendu, mais écoutez rapidement, il dit sceptible, hein, il est sceptible.
Sceptible, ben.
Mais je pense que ils vont peut-être appuyer enfin sur le bouton. Est-ce que ça durera 1h30? Je suis sceptique quand même,
oui,
mais ça peut durer 8 minutes.
Je suis sceptique. Alors, Jérôme Roten n'en est pas à sa première invention de mots. C'est sa spécialité. Je vous propose un petit best-of des dernières.
Ah, super.
C'est bien, gratuit, bien, ça coûte rien.
Alléluia.
C'est monsieur, alléluia. Monsieur mon nouveau. Alléluia.
Mais putain, alléluia. Alléluia. À la base, c'est un produit premium. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est un produit premium. Tic-tac, moi, j'en ai de l'urticaire.
De quoi?
De l'urticaire. Est-ce que ça durera 1h30? Je suis sceptique quand même.
Et alors
alléluia.
Et puis, pour terminer sur Jérôme Roten, Moscar classique que tout le monde fait sur un joueur de l'OL blessé, une histoire de carte, un grand classique.
Il s'est blessé musculairement, donc pendant 2-3 matchs encore, et on sait même peut-être plus, il va pas être là, donc ça rabat un peu les cartes offensivement.
Ça rebat les cartes. Si tu rabats un peu les cartes, tu fais au milieu.
Ouais.
Ça envoie un peu, on sait pas.
Voilà.
Sans transition, c'est l'instant. Michel Platini, invité exceptionnel de l'after hier sur RMC. Jingle Michel.
Je tenais toutefois à dire que la FIFA.
Avec un grand Michel en grande forme. Franchement, c'est un régal. Vous pouvez podcaster l'after hier. Et en grande forme sur quelques noms de joueurs. Tout Michel qu'il est. Il a parfois raté le cadre hier pendant l'émission. Par exemple, sur le capitaine de l'équipe de France de foot actuelle qui joue au Real Madrid. On en a parlé il y a quelques secondes.
Bon, vous êtes sur Mbappé en ce moment.
Bon, je suis plutôt positif. Je pense que Kylian Mbappé a pris un gros risque d'aller au Real Madrid.
Kylian Mbappé, incroyable. Et puis il évoque séquence très intéressante. Et je sais que tu as écouté ça, Eric. Il évoque le manque de joueurs très techniques, des joueurs qui jouent le foot de rue. Il pense à notre chouchou, 137 sélections avec l'équipe de France. Il joue à l'Atlético de Madrid. Il a failli partir aux États-Unis. C'est Grisou. Écoutez, comment l'appelle Michel Platini. J'avais jamais entendu ça.
On a perdu, je pense, cette dernière année. On a perdu, bon, même s'ils sont toujours là, on a perdu un peu Griezmann qui n'est plus Griezmann.
Jürgen Griezmann.
Attendez, dans la séquence, Piro, il va nous faire une autre variante. Bon, il y a Griezmann. Il nous parle du joueur belge qui joue à City, très connu, magnifique joueur belge, Kevin. Vous connaissez Kevin. Écoutez comment le prononce Michel.
On a perdu, je pense, cette dernière année. On a perdu, bon, même s'ils sont toujours là, on a perdu un peu Griezmann qui n'est plus Griezmann. De Bruyne qui n'est plus le De Bruyne. Modric, ça veut dire qu'on a perdu pas mal de joueurs ces dernières années.
De Bruyne, il joue plus à City d'ailleurs.
On critique pas Michel.
Non,
d'ailleurs, il y a une réaction sur WhatsApp 06 12 424 424. Pascal nous dit: ah bon, c'est autorisé de se moquer de Michel Platini?
Pas de Michel
Ah, bon. Juste,
Un jour, j'ai fait un journal moyen devant lui sur lui.
Ouais, voilà.
Il a rigolé. Il a rigolé. À un moment, il a dit vas-y, termine là. Il a rigolé un moment, puis après, ça a commencé à le chauffer. Sans transition, Focus Voice. Alors, sur qui ça va tomber aujourd'hui? Suzanne a enregistré dernièrement juste la voix d'un membre du Moscato Show à l'antenne, mais aussi hors antenne pendant les pubs. Alors, sur qui ça va tomber aujourd'hui? Suspense. Tournons la roue. La roue du bonheur ou du malheur. Je tourne la roue.
Quel sale mec.
Oui. Pas cochère.
Ça tombe sur Vincent. Donc la semaine dernière, Vincent était en duplex de Dubaï, coincé avec les événements malheureux. Il est là avec nous à Paris. Donc il était en mode ronchon. Donc vous allez entendre des mots de ronchon. Suzanne a décidé d'appuyer sur le bouton rouge. Elle a dit j'enregistre Vincent sur 20 minutes, une demi-heure. Juste la voix de Vincent pendant l'antenne, ronchon, avec aussi une blague qu'il a tenté de placer plusieurs fois, à laquelle on n'a pas accroché, ça peut arriver. Hein.
C'est con,
le public n'était pas au rendez-vous.
C'est dingue.
Et puis, également, hors antenne pendant la pub, à l'hôtel, en anglais, Vincent s'entraînait ou commandait un goûter à quelqu'un qui faisait le service
en anglais.
Il y a un mix de tout sur 1 minute 07 de best-of.
Ah, 1 minute 07, c'est long.
C'est
long.
Voilà, il y a de tout, c'est un mix.
Ça peut paraître court, mais ça va être
Focus Voice. Merci Suzanne, merci Davy.
Allez, allez, c'est parti.
Allô, allô. Si tu as beau après, tout est correct. Allez, Adicias.
Oui, Jacques.
À follow the day. Deux immeubles, c'est là où il y a l'aéroport. Follow the day. Never ever.
On devrait l'appeler Jacques Lomat.
Mais oui, qu'on va le faire venir. Quoi. Jacques, quoi.
Les mecs, toute leur vie, les mecs, ils font de la politique comme ça. C'est incroyable. 50 ans qu'ils sont là.
Vous êtes des connards. Eh ben oui, c'est Jean Reno, c'est un super film, t'as qu'à le regarder, toi, t'as tant qu'une culture cinéphile, toi. Quelle bande de connards.
Cette bande de cons.
Tu le connais, Jacques Lomat? Jérôme. Jacques Lomat.
Tu peux ou toi? Tu. Tout.
Ça te dit rien? Jacques Lomat, tout ça?
A cake. Do you have a cake? No, it's chocolate. I don't like the chocolate, not chocolate.
Oui, maintenant, là, t'as compris? Là, je me frise en anglais. Sincèrement, là, je me frise en anglais. J'aime pas trop. I don't like the chocolate cake. Est-ce que je vous ai parlé de l'histoire de Jacques Lomat?
C'est pas des fous.
Tu parlais à un vrai mec?
Non, tu répétais, là. Tu parlais à un vrai mec, là.
Non, mais si, je parlais à un mec.
Il répétait.
Ah ouais?
Je croyais que tu répétais pour commander,
moi. Mais là, il a repassé plusieurs fois. J'ai dit, attends, t'as qu'il chocolate.
Non, Suzanne, c'est pas. Non, Suzanne me dit, c'est pas des rodifs.
Why you don't like chocolate?
Je n'aime pas le chocolat. Je n'aime pas le chocolat, tout simplement.
Mais toi, chocolat, t'aimes pas?
J'aime la mousse au chocolat, mais des fois, les gâteaux au chocolat, c'est trop. J'aime la mousse au chocolat, par contre, j'en raffole là. Mais pas le cake, le chocolate cake, c'est trop chocolat.
Le brownie, c'est
bon. Merci beaucoup, en tout cas.
Vu que ça n'est pas du chocolat,
merci.
Quand tu es trop amer, si j'aime pas ça.
Ah, on a le temps, sans transition aucune, merci Vincent.
Ben, ouais, merci.
Vous. Nouvelle histoire, Eric, tu adores ça, de fils 2 dans le rugby.
Non mais ils veulent pas faire ce débat parce que
les 6-2 c'est
gêne,
pas fini dans le rugby, c'est plus qu'une tradition, ça devient un phénomène. Ouais. Samedi, match de Krabos, c'est les moins de 18 ans, Stade Toulousain, Aviron Bayonnais, c'est le haut niveau. Hein.
Je sais de qui tu vas parler.
Je suis tombé sur la feuille de match. Un auditeur me l'a envoyé, la feuille
c'est
de
vrai.
Match officiel, très gros niveau, ils sont c'est joueurs qui peuvent Krabos, devenir professionnels.
C'est les Krabos.
Côté Stade Krabos. Toulousain,
ouais, numéro champion de France,
numéro 10, monsieur Pablo Garbajosa.
Il paraît qu'il est phénoménal, ce gamin.
Oui, numéro 15, fou, hein. Le capitaine, j'appelle monsieur Enzo Trail, fils de Damien Trail.
Ah ouais, il paraît qu'il est coupé.
Et sur le banc, il va faire son entrée en jeu en cours de match. Numéro 19, Yosefa Preston. Tecori, qui est le fils de Tecori. Et côté Aviron Bayonnais, j'appelle l'équipe numéro 4, monsieur Jules Martin, fils de Rémi Martin, qui s'appelle Jules Martin Bonnard, son nom complet aujourd'hui. Et sur le banc de l'Aviron Bayonnais, le numéro 19 qui va faire son entrée en jeu, Juan Harry Nordoki, le fils d'Ivan Nordoki.
Les enfants, ils s'appellent Pablo, Enzo et Juan.
Ils se cachent, les mecs, hein.
Le petit Pablo, le fils de Xavier, paraît qu'il est.
Il y a une action qui tourne sur les réseaux sociaux, là, numéro 10, Vif, qui prend la ligne, elle est pas mal.
En général, les Pablo, tout ça, c'est que la mère, ça a été en tournée, ça, c'est en Argentine.
Il est bon, Michel.
Alors, il y a quand même que Vincent
qui arrive à aller une fois dans sa vie dans un endroit et c'est la guerre.
Et c'est la guerre. Non mais vraiment, hein, il a vu des...
On rigole, mais c'est pas drôle. Hein.
Il a vu des bombes et tout. Hein.
C'était flippant.
Et Michel Platini nous envoyait des bombes aussi avec, ah oui. avec sa lampe qui a fourché.
Ça vaut pas grand-chose ouais. à côté des bombinettes de Didier Deschamps.
Mais pourquoi tu me parles de ça depuis le début?
Parce que ça arrive.
Ça arrive.
Ça arrive.
Genre après 17h.
Voilà, après 17h, il okay. y a des petites bombinettes.
Vers le débat OM.
Ce qui est le plus drôle, moi, je vous l'ai déjà dit, ce qui me fait le plus rire, c'est pas les grosses erreurs, c'est les petites erreurs. Mignonnes. Mignonnes comme tout.
On parle de l'Olympique de Marseille dans quelques instants, Pierrot, après les infos. C'était à l'époque de l'éviction de Roberto De Zerbi. On se posait la question le 12 février, l'OM doit-il repartir de zéro? Ils ont touché le fond après.
On revient tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 18h,
le meilleur du Super Moscato Show.